Un procès légendaire, comme si vous y étiez. Le samedi 23 mai prochain, de 9h à 16h30, sur le campus de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, vous pourrez assister au procès d'Hassan Diop, héritier contemporain d'Arsène Lupin. Pierre de Radio Primitive interroge pour vous les organisatrices.
Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie?
Alors du coup, je vais commencer. Je m'appelle Apolline Georges, je suis étudiante en troisième année de droit et de droit public plus précisément à l'Institut catholique de Paris sur le campus de Reims. Et dans la vie, je fais des procès fictifs.
Et donc moi je m'appelle Sacha Tarbes, donc un peu comme Apolline, on est dans la même licence en droit et droit public plus spécifiquement. Et je me suis prise de passion aussi pour les procès fictifs.
Par rapport au procès fictif d'Hassan Diop dans l'univers d'Arsène Lupin, comment elle est née en fait, cette idée de créer un faux procès?
Alors cette idée de... Déjà notre association elle est née cet été. C'est Apolline qui m'a appelée, qui m'a dit « ça te dit, on monte une asso ?» Je lui ai dit « allez, on y va ». Et elle m'a dit « des procès fictifs, est-ce que ça te dit ?» J'ai dit « allez, on y va, procès fictif ».
Et donc l'idée d'Hassan Diop et de base plutôt d'Arsène Lupin, mais bon, on a dû être réaliste malheureusement, c'est tout simplement moi qui regarde Netflix au lieu de réviser mes partiels et qui dit à Sacha, je crois que j'ai trouvé notre nouveau procès et surtout notre projet de fin d'année pour toutes les deux parce que c'est le dernier et je lui ai proposé Hassan Diop, tout simplement.
Et quels sont les objectifs du coup de cette initiative? Est-ce que ça débouche sur une note?
Alors du coup, nous on n'est pas du tout dans le style note, etc. On veut vraiment aider déjà les étudiants à comprendre le système juridique parce que même nous, avant d'avoir créé cette association, c'était assez flou de comment fonctionne réellement un procès, quelles sont les places, le procureur, la présidence, etc. Du coup, on s'est dit... Déjà, ça peut aider les étudiants à comprendre concrètement comment ça fonctionne. Et après, on a quand même un rôle oratoire. Enfin, on aide les étudiants à être un peu plus à l'aise à l'oral, être à l'aise devant un public. C'est aussi ça ce qu'on essaye de faire dans ces procès fictifs.
Et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, c'est-à-dire mobiliser des connaissances juridiques devant des gens qui savent de quoi on parle. Ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Et voilà, les étudiants doivent prendre confiance en eux et c'est notre seul objectif. On les note pas, on leur donne des conseils parce que du coup avec Sacha on a un petit peu plus d'expérience même si on n'est pas non plus les grandes reines du procès fictif, mais on leur donne des orientations pour s'améliorer, etc. Et notre objectif c'est juste qu'ils soient super fiers d'eux à la fin du procès.
Et combien de temps ça prend à élaborer un tel projet?
C'est interminable. Interminable.
Ouais, vraiment. En fait, ça dépend. Là, cette année, on a mis en place des petits procès fictifs où on fait ça sur un mois. Donc, le procès en lui-même dure un mois, mais déjà à élaborer, ça met un mois pour un petit procès fictif interne à l'association. Mais alors là, notre idée de procès fictif d'Arsène Lupin, c'est...
On y est depuis février à peu près.
Oui, même peut-être janvier.
Ouais, on avait peut-être eu l'idée en janvier, mais on travaille dessus depuis février. Et là, depuis la fin de nos partiels, donc fin avril, on y est
tous les jours,
jour et nuit.
Okay. Et au total, sur le projet, il y a combien de personnes qui bossent? Donc, j'ai bien compris que vous êtes deux principalement, mais combien de personnes vous aident, vous accompagnent dans ce projet-là?
Là, pour l'instant, on est 25 au compteur, donc tout confondu. Hein, parce que du coup, c'est une collaboration entre les étudiants de l'URCA et de l'ICP. Mmh. Donc voilà, entre ceux qui organisent, donc Sacha et moi, qui participons également au procès, et tous les autres qui sont malgré tout essentiels à la réalisation de ce projet, on est 25.
Ok, ça fait une belle équipe tout de même.
Oui.
Et comment les rôles ont-ils été attribués, les juges, les avocats, etc.? Comment ça a été attribué tout ça?
Alors on a laissé le libre choix aux étudiants. Voilà, avec Apolline, comme c'était notre dernier procès, on s'est dit, on aimerait bien, nous on a décidé de choisir les avocats de la défense. Pas très simple comme place. Mais voilà, nous, on a décidé et après, on les a laissés décider et ça s'est fait plutôt simplement. On a dit, on vous verrait bien dans ce rôle-là. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Et franchement, tout le monde s'est accordé de façon plutôt naturelle.
Est-ce que vous avez été accompagné par des professionnels du droit, de la justice pour ce projet ou pas du tout, vous avez fait vous-même?
Alors, on a quand même eu un accompagnement redoutable. qui est le grand-père de Sacha, qui a travaillé dans la police, enfin dans la... Comment dire
le... La police judiciaire.
Ouais, la police judiciaire pendant des années, notamment sur l'affaire des disparus de Mourmelon. Donc, il a une connaissance juridique vraiment hyper approfondie. Donc, il nous a beaucoup, beaucoup aidés sur le réalisme, sur beaucoup, beaucoup d'aspects où on voulait vraiment que ce soit... que les gens se retrouvent, qu'ils aillent au tribunal correctionnel ou au tribunal correctionnel de l'Institut catholique de Paris, voilà, que ce soit plus ou moins la même chose. Et après, globalement, on n'a pas trop, j'avoue qu'on n'a pas trop saisi des professionnels, parce que je pense qu'avec ton grand-père, on sait...
Ouais, puis un peu par manque de temps aussi.
Oui, aussi.
Mais oui, mon grand-père nous a surtout aidés dans l'exactitude des, voilà. Des choses, en fait, de tout ce procès.
Et comment vous avez choisi votre thème ? Donc, je cite, la légitimité morale peut-elle justifier la violation de la loi pénale ? Comment vous l'avez sélectionné, ce thème ?
En fait, c'est parce que Hassan Diop, il révèle beaucoup, beaucoup de complexité dans le sens où il commet des infractions, ça c'est indéniable, mais c'est pas des infractions comme, j'ai envie de dire, un criminel lambda, si la formulation est exacte, mais c'est vraiment pour sauver l'honneur de son père, c'est pour protéger son fils, c'est pour, enfin voilà, ça n'a jamais été dans le but de s'enrichir, ça n'a jamais été dans le but de faire mal, et donc là, c'est ça que ça, c'est cette problématique que ça révèle, c'est est-ce que la légitimité, est-ce que le besoin de se faire justice peut prendre le dessus sur le droit? Et donc, c'est un peu notre problématique que nous, avec Sacha, en tant qu'avocat de la défense, on est obligé de dire oui, la légitimité morale prend le dessus. Mais par contre, les avocates de la partie civile et plus précisément la procureure de la République va dire que bah, bien sûr que non.
Par rapport à la fiction donc, que vous mettez en place, est-ce que vous pensez, parce que j'ai bien l'impression que vous espérez, mais est-ce que vous pensez réellement que ça peut... mieux faire comprendre la justice réelle, entre guillemets, aux personnes qui viendraient voir le procès ?
Je pense, enfin, on pense que oui, les gens vont pouvoir comprendre un peu plus ce que c'est que ce monde de la justice, ce que c'est qu'un tribunal correctionnel, ce que c'est qu'une audience, un procès, etc. Parce que, justement, on a essayé de faire ça de façon très juste, mais aussi de façon très simple, pour que des personnes, qu'elles soient en droit ou pas, que ce soit des adultes, des enfants, etc., puissent comprendre exactement ce que c'est et puissent s'identifier à bah, peut-être, je sais pas, une vie ou alors un témoignage, enfin bref. En tout cas, on a essayé de faire ça de façon simple, et puis même pour les gens qui n'ont jamais participé à un procès fictif, qu'ils puissent tous réussir cet exercice. Donc je pense que qu'on soit en droit ou pas, on peut comprendre ce qui va se passer ce samedi 23 mai.
Puis au-delà de ça, la majorité de notre public, enfin, mis à part peut-être 2-3 exceptions qui seront avocats ou autres, ce ne sont pas des gens qui pratiquent le droit. Donc l'objectif, ce n'était pas non plus de faire un truc complètement utopique où il n'y a que nos familles qui peuvent venir nous voir parce que... parce qu'ils n'ont pas le choix, mais vraiment qu'ils puissent se dire « Ah oui, je comprends mieux », et surtout aussi retirer de la tête, que ce soit de nos proches ou non, les clichés d'un procès, de « objection à votre honneur », de l'avocat qui arrive et qui parle mal à la présidente, alors que dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment aussi retirer les clichés. Et puis voilà, moi je sais qu'on a eu on a fait un gros projet au sein de l'ICP avec Sacha déjà en janvier, qu'on a appelé, enfin, qui était le Moon, où on faisait une simulation de la Cour pénale internationale. Et là, mes parents m'ont dit, mais purée, je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Et j'étais hyper contente qu'ils aient pu découvrir ça et leur dire, bah oui. Et c'est pour ça que je fais des études. Je veux être à cette place-là.
Comment vous êtes préparée pour l'audience dans le rôle, vous l'avez dit, d'avocate de la défense ? Est-ce que ça nécessite une préparation particulière ?
Alors, pour défendre notre prévenu, oui, parce que c'est un peu compliqué. On essaie d'élaborer des petites stratégies. Comment on s'est préparé en essayant d'attaquer nos adversaires. Et après, on essaie de trouver les petits subterfuges comme pourrait trouver un avocat de la défense. Parce qu'en fait, finalement, c'est tout un art d'être avocat de la défense. parce que c'est assez compliqué de défendre l'indéfendable, en fait. Donc on essaie.
C'est savoir aussi trouver les petites failles ou les faiblesses des points qui vont venir à la barre. C'est savoir leur dire « Mais attendez, vous dites ça alors que vous avez fait ça, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. » Et là, du coup, la présidente, le public va se dire « Elle a pas tort. » C'est clairement notre objectif parce qu'on n'a pas le choix.
Et est-ce que vous vous êtes inspiré de véritables procès pour jouer justement ce rôle-là? Est-ce que vous avez regardé un peu à la télé ou des véritables affaires?
Sur YouTube, il y a des super reportages d'Élise Lucet où pendant une heure et demie, il y a une vraie audience à la cour d'assises, etc. Et donc, en fait, en regardant ça, on arrive à se positionner en disant « Ok, donc ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ci, etc. » Donc, ça nous aide vraiment pour la tenue de nos procès. Après, en règle générale, voilà, on aime bien regarder les affaires un peu connues parce que voilà, on avait d'autres idées, hein, pas que Assad Diop. On pensait peut-être à faire aussi le petit Grégory, les choses comme ça. Donc, c'est aussi beaucoup se renseigner sur la procédure. Donc, en fait, c'est un peu du... Voilà, on puise un peu partout des informations sur la procédure pénale, sur le procès en lui-même, et ça fait un procès fictif.
Et c'était votre première expérience dans ce rôle-là?
Pour ma part, non.
En tant qu'avocate de la défense, ouais. Pour ma part, oui, j'ai beaucoup expérimenté la présidence parce que c'est ce vers quoi j'ai envie de me tourner plus tard, le concours de l'ENM, etc., pour être juge. Et donc, avocate de la défense, pour moi, c'est une première.
Et puis, moi, c'est plutôt vers la profession d'avocat que je me tourne, donc automatiquement, c'est un truc que j'ai plus expérimenté, alors que présidente, c'est pas pour moi.
Et en quoi pensez-vous que ce type d'exercice est important pour les étudiants en droit comme vous?
Pour moi, ça leur permet de comprendre concrètement comment ça se passe. Parce qu'en cours, on voit beaucoup la théorie. Alors voilà, il faut faire ça, il faut faire ci. En fait, la pratique est finalement tellement plus différente que la théorie. C'est la même chose qu'un stage, par exemple. Quand on obtient un stage et qu'on se rend au tribunal, etc., on se rend compte vraiment de comment ça se passe. En fait, OK, il y a ce qu'on apprend en cours, mais finalement... Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend en cours. Et donc, du coup, le fait d'avoir monté cet asso et de monter ce procès fictif, ça permet aux étudiants de comprendre, en fait, de pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent en cours dans la réalité.
Et quelles ont été les principales difficultés dans l'organisation de tout ce procès, qui a été un travail titanesque, de ce que je comprends?
Principalement, c'est l'aspect ressources humaines. Parce que voilà, les gens veulent tel rôle, mais il est déjà pris par quelqu'un qui a déjà commencé à travailler, parce que telle personne nous dit qu'elle ne peut pas venir aujourd'hui, par exemple, alors que le procès est samedi, parce que y a plein de problèmes liés aux personnes, mais ce qui est normal, à 25, toutes nos idées ne peuvent pas être toujours suivies. Voilà, avec Sacha, clairement, on les harcèle sur WhatsApp depuis 2 semaines, voilà, à un moment donné, ils en ont marre, ils ne veulent plus nous répondre. C'est presque normal, je crois que ça c'est...
Dans tout projet avec plusieurs personnes, c'est souvent le problème qui revient le plus, mais c'est normal. Comme a dit Apo, c'est totalement normal. On est plein, il faut réussir à tous se coordonner, et c'est la chose la plus compliquée. Parce qu'en vrai, l'histoire, du coup, on avait ma famille pour nous aider. Après l'organisation, on a nos parents qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Enfin, sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce procès. Mais c'est vrai que l'organisation à 25, c'est tout un travail.
Ouais. Mais puis surtout, on a voulu faire un truc sympa. D'ailleurs, vous êtes tous invités si vous voulez venir. Avec un goûter, un petit déj, du champagne et tout ça gratuitement. Le but, c'était pas de faire payer l'entrée ou quoi. Donc tout ça, voilà, ça nécessitait nos parents, principalement. Mais voilà, il y a un peu des problèmes d'organisation partout. Mais on va dire que le problème principal, ça reste quand même les humains.
Si le succès est au rendez-vous pour cette année, est-ce que vous souhaiteriez renouveler ce type d'expérience via votre association, du coup, que vous avez montée toutes les deux?
Alors oui, on a déjà pensé à la prochaine personne qui reprendrait la tête de l'asso, parce que du coup, nous, l'année prochaine, on s'en va. C'est notre dernier projet, gros projet avec cette association. Et donc, on a réfléchi à la prochaine personne. Elle sera d'ailleurs annoncée à la fin du procès. Et on espère qu'elle continuera à faire des gros projets comme ça. Dans l'idéal, voilà, y aurait une collaboration par an, des petits procès internes au sein de l'asso, et à la fin, un gros projet qui réunirait plusieurs écoles, avec voilà, un grand public, etc. Ce serait dans l'idée, elle a déjà des idées, donc j'espère que ça va se faire.
Et dernière question, est-ce qu'il reste des places? Et si oui, comment s'inscrire pour samedi et comment vous contacter?
Alors oui, il reste plein de places. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc vous pouvez aller sur le compte Instagram JustICP, donc JUST-ICP. Donc c'est notre compte Instagram pour l'asso. Et dans la bio de l'asso, de l'Insta, il y a le lien With Event pour pouvoir prendre un billet. Donc il faut obligatoirement s'inscrire avec un billet parce que sinon, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas rentrer au sein de l'ICP. Donc c'est gratuit, évidemment, parce qu'on voulait que ce soit accessible à tous, mais sous présentation d'un billet obligatoirement.
Bah, parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est très intéressant.